dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et on se retrouve pour la première de la saison dans Dialectique. On est reparti pour une nouvelle saison, une belle saison qui s'annonce avec plein de belles surprises, plein d'invités. Et puis pour moi c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de vous retrouver chères auditrices, chers auditeurs à l'antenne sur RCN 90.7. Et pour cette première émission, j'ai la chance, l'opportunité immense de recevoir un homme de science, un homme de lettres, un homme de son aussi. On aura le temps de développer tout cela tout au long de l'émission. Alors, c'est parti, tout est parti d'un message de notre ancien président que je salue, Christophe Chevardet, qui me dit, écoute, je connais quelqu'un, tu vas l'apprécier, tu vas l'admirer et tu vas admirer son œuvre. Et il ne m'avait pas menti, on s'est rencontrés quelques jours plus tard et puis j'ai eu la chance de découvrir ce livre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, qui nous regardent voilà, en direct sur les écrans, voilà ce livre, Les murmures des frangipaniers. Et derrière ce livre, un homme, alors je ne sais pas si je dois dire docteur ou juste Nguyen Tran. Déjà bonjour.
Bonjour Lionel, je pense que Nguyen Tran, ce sera parfait.
Très bien, alors pourquoi j'ai posé ces questions? Parce que vous êtes chirurgien.
Enfin, je co-dirige l'école de chirurgie, mais je ne suis pas chirurgien d'origine.
Voilà, vous ne pratiquez pas, mais en tout cas, vous exercez dans le domaine de la chirurgie. Et donc, c'est un peu surprenant pour certaines personnes, surtout en France, de se dire qu'on a un homme de science qui se met aux lettres.
Oh, c'est pas surprenant. Disons qu'en toute humilité, je pense qu'on a eu énormément des hommes de science qui étaient également des hommes de lettres formidables.
Pascal,
la formation, oui, et puis vous avez dans tout le développement donc de l'écriture scientifique, vous avez eu également des hommes de lettres formidables. Je crois que dans la formation de nos prédécesseurs, il y a eu énormément donc de réflexions philosophiques sur la vie, sur l'humain. Et la science s'intéresse à l'humain, donc l'essence humaine était également très prégnante dans la formation scientifique. Et c'est pas surprenant, vous avez aussi des scientifiques qui sont des très grands musiciens, etc., sont exercés comme un métier, mais vous en avez vraiment... enfin, c'est, la science, pour moi, c'est l'art. L'art, c'est la confluence de diverses influences. Donc, ce n'est pas surprenant.
C'est vrai qu'à la Renaissance, par exemple, on trouvait des personnes qui touchaient un peu à tout, que ce soit des domaines scientifiques et des domaines artistiques.
Absolument, j'ai pas osé, en toute humilité, j'ai pas osé me comparer à toutes ces personnalités comme Léonard de Vinci, qui était à la fois... Vous voyez, donc on a eu énormément des hommes de lettres. Un de mes modèles, c'est Benjamin Franklin, qui touchait à tout. Enfin bref, vous voyez, donc ce n'est pas une grande surprise, disons.
En tout cas... pour moi, à titre personnel, ça a été, j'ai été agréablement surpris par la poésie qu'on trouve dans votre livre et on aura toute l'émission pour en parler. Avant, j'aimerais qu'on passe quelques temps sur votre parcours, d'où vous venez, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a emmené petit à petit à la musique et à la littérature.
Alors, pour faire simple, sans tomber dans les misérabilismes, hein, je suis un réfugié politique en France depuis une quarantaine d'années maintenant. Mon parcours, c'est somme toute, c'est un parcours donc de réfugié accueilli par la France, et je profite vraiment pour remercier vraiment la France de m'avoir offert l'hospitalité, mais aussi un destin. Voilà, ça c'est. Et j'ai eu en France un parcours somme toute classique pour se déraciner, c'est-à-dire j'étais enfant de la DAS, et puis ensuite ça m'a permis de faire des études de sciences, et puis ensuite je suis progressivement devenu, avec quelques amis chirurgiens, l'idée de créer l'école de chirurgie, et puis ensuite dans l'enseignement, donc je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine, professeur en physiologie, Et voilà, donc ça c'est le parcours, je dirais, universitaire. Mmh. Qui m'a emmené dans un certain égard à quelques voyages aussi à l'étranger pour parfaire donc cette aventure, je dirais, universitaire. Et puis de l'autre côté, j'étais épris très tôt par la littérature que j'adore, que je lis beaucoup et j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la littérature française des années, pardonnez-moi, mais j'étais plutôt attiré par la littérature du 19e siècle, début 20e siècle, beaucoup de poésie française à l'époque, de Rimbaud, Baudelaire, etc. Voilà.
Ceci explique cela. Alors, vous avez anticipé ma prochaine question. Quelles sont vos influences en termes de littérature? Parce que cette plume, alors, moi j'y vois du Zola dans la description. On est vraiment dans le détail, dans l'essence même des sens, dans l'éveil des sens, de tous les sens. Peut-être que Zola ne fait pas du tout partie de vos influences, mais en tout cas, dans cet aspect de description, cet aspect descriptif, et dans l'aspect poétique, de votre plume, qu'est-ce qui vous a ému étant plus jeune, en tant que lecteur?
Alors, j'en ai dit un petit peu dans mon livre, les influences étaient... j'ai eu une influence très tôt de l'univers plutôt chevaleresque de la littérature française, c'est-à-dire, vous voyez, c'est tout ce qui est refaire... à Notre-Dame de Paris, tout ce qui est refaire, vous savez, de cap et d'épée, d'Artagnan, voilà, donc tout ce qui est chevaleresque, voilà. Et puis ensuite, progressivement, vous avez raison de noter Zola, qui est un de mes auteurs préférés aussi, mais j'aime bien aussi des écrits plutôt de la nature. Giono, par exemple, voilà, quand il décrivait la nature, qu'on pouvait même mordre à plein dents, moi, ce sont des écrits qui me plaisent beaucoup.
Mais justement, dans votre livre, il y a énormément de descriptions de nature. Alors, on ne s'en lasse jamais parce que c'est toujours de façon éthérée, de façon, dans des envolées lyriques maîtrisées. Parce qu'en fait, vous ne laissez pas, vous êtes toujours sur un fil, mais vous ne tombez jamais, vous revenez, vous raccrochez, et vous nous donnez ce goût-là, en fait, une frustration, parce que vous nous mettez dedans, et puis, hop, vous nous dites, allez, on va revenir à l'histoire, et ça, c'est assez intéressant. Ça aussi, c'est une des particularités de votre écriture.
Bah, écoutez, j'ai tenté, c'est mon premier roman, et j'ai tenté de m'atteler à un thème qui est un peu ardu, un peu difficile, qui est l'amour absolu. Et dans cette aventure, je dirais, littéraire, je voulais raconter une histoire, déjà. C'est pas une thèse de science ni médicale.
Voilà. Je préviens les auditeurs. Alors, le docteur Nguyen n'a pas produit une thèse. Voilà. Sur ce coup, c'est vraiment de la littérature romanesque du terme.
Voilà, c'est un roman sur l'amour. Donc, forcément, il y a... j'aime beaucoup mettre dedans beaucoup d'émotions, du sentiment, des émotions, mais aussi des sens. C'est-à-dire que je voulais reproduire dans les descriptions tous les cinq sens, l'éveil des cinq sens, les odeurs, le toucher, etc. Donc, pour emmener le lecteur, parce que une des points de départ de mon histoire, c'est pour que l'amour absolu existe, il fallait ou il faudrait que les deux protagonistes soient dans un état de détresse ou de survie, enfin, désir de survie intense. Et pour décrire tout ça, les mots ne suffisent pas. Il faut des images, il faut des métaphores, il faut énormément de sens pour faire naître le sentiment d'urgence, le sentiment d'envie, le désir, pour que, si vous voulez, que l'étincelle de l'amour absolu puisse exister.
J'allais vous demander, quel est votre rapport à la nature qui est omniprésente dans l'œuvre et d'ailleurs sur la couverture, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on peut voir là ce ponton et cette... Alors, la couverture, elle est à trois quarts emplie de nature.
Oui, de nature et puis de métaphores pour la nature. La nature, pour moi, c'est essentiel. Je dis, voilà, c'est un peu trivial de dire ça, mais si vous me permettez juste une petite parenthèse. Je pense que la science, de façon générale, ou la vie dans laquelle on est actuellement, est issue de la dernière révolution industrielle. D'accord ? C'est-à-dire que la dernière révolution industrielle était focalisée sur l'humanisme, sur le développement du bien-être humain. Et c'est très bien, moi je suis très content parce que j'en bénéficie tous les jours. Cependant, pendant cette révolution industrielle, on a mis de côté la nature, les animaux, tous les autres êtres vivants, à côté, au service de l'humain. Et je trouve c'est dommage que de poursuivre cette volonté. Et je pense que dans cette nouvelle révolution industrielle qui est le numérique actuellement dans lequel on est, il y a matière à revenir vers ces valeurs, à retrouver dans la nature toute l'essence qui fait de nous des vrais êtres humains, quoi.
Et cette humanité, finalement, en fait, elle se matérialise dans cette quête d'amour. Je vais essayer de ne pas trop spoiler aussi, parce que il y a forcément des auditeurs et auditrices qui voudront s'emparer de ce roman. Mais est-ce que c'est cette humanité finalement qui est le moteur? Parce que certes, l'amour, on sait que dans le roman, c'est la boussole, mais le moteur.
Oui, absolument. Vous avez raison de souligner cet aspect qui est mis en filigrane dans mon livre. Et je partais sur, vous voyez, en toute humilité, mais audace aussi, de croire que l'amour absolu, c'est le propre de l'homme. Voilà. Depuis la nuit des temps, vous savez, à la différence d'autres espèces, etc., c'est volonté donc d'amour, l'empathie qu'on peut développer, c'est ça qui crée le ciment et l'énergie surtout essentielle qui fait de nous donc des êtres complètement métamorphiques qui sortent de l'ordinaire et qui créent un monde. Et c'est ça la thèse de mon livre aussi, c'est que l'amour absolu, c'est l'amour, cette énergie qui va vous donner une force, une énergie incroyable qui permet de nous métamorphoser pour se confronter à la réalité, la dureté de la vie, à la finitude de l'univers et puis de créer ce que nous sommes, des êtres capables de grandeur.
Et ce qu'on comprend aussi à travers le roman, c'est que le personnage, à chaque fois qu'il pense avoir fait le tour de la question en termes d'amour, se confronte à un mur. Très très tôt dans le livre, il y a un passage, l'amour véritable, alors je vous cite, l'amour véritable, je le comprenais maintenant. « T'es passé de loin les contes de bravoure et d'aventure. Il résidait dans le partage instantané des battements de cœur, dans les échanges de regards, dans les souffles entrecroisés de ces instants simples mais magiques. » Et une page plus loin, on a « Alors que la dernière note de ma guitare s'évanouissait dans l'air, elle posa sa tête contre ma joue. Et là, dans un murmure à peine audible, elle laissa échapper un « Je t'aime » qui résonnait comme un défi aux cieux, une caresse contre mon cou, une écharpe de douceur et de tendresse. » À ce moment-là, on se dit « Le personnage ne peut pas aller plus haut dans sa perception de l'amour. » Et plus tard, on se rend compte qu'enfin, si, en fait, si on peut progresser.
Oui, vous avez raison, vous touchez là un des aspects importants de ma thèse concernant l'amour absolu. C'est-à-dire, à chaque fois, on se dit, mais comment on peut survivre après rencontrer l'amour absolu, ou l'amour de façon générale. Ma vision, enfin, ma compréhension, c'est que, en fait, à chaque fois, l'amour, pour moi, maintenant, je comprends, c'est quelque chose... Il faut vivre avec l'impermanence. C'est-à-dire que l'amour, c'est une énergie continue qui se réinvente à chaque fois. l'erreur que j'ai connue, ou que l'erreur, hein, parfois, dans la perception de l'amour, et puis la douleur que j'appelais dans le livre les trois A, vous savez, le triangle, les trois A de l'amour, c'est-à-dire son armée, qui est merveilleux, et puis après, vous avez l'anéantissement et l'abîme. En fait, pour éviter ça, chaque fois, c'est-à-dire une fois qu'on a rencontré l'amour, on a tendance à croire qu'on est arrivé. Ou alors, on incorpore ou on fabrique une espèce d'ancove sentimentale dans laquelle on met cet amour dedans. Hein, c'est comme un doudou. Hein. J'ai écrit aussi un chapitre sur la revanche du doudou. Et en fait, ce faisant, c'est bien. Ça nous a permis d'avoir un souvenir fantastique. Sauf que ce souvenir va se servir toujours de repère, de comparaison avec d'autres, qui nous empêche à terme de vivre pleinement
l'instant présent,
l'intense présent, et puis l'énergie de cet amour qu'on peut nous donner à un instant donné, se transforme, va au-delà. Et au fur et à mesure, vous voyez, de développement du personnage principal, il comprend petit à petit qu'en fait, qu'il faut se défaire de toute cette chaîne sentimentale, bien ou pas bien, mais ça nous permet d'évoluer pour que l'amour devienne quelque chose d'universel.
Et je le disais, dans votre œuvre, on est plongé à travers tous les sens, et vous avez eu l'idée géniale de nous plonger encore plus précisément dans un autre sens, c'est celui de l'audition. Alors, c'est un concept complètement dingue, complètement génial, c'est que votre livre s'accompagne d'un album de musique. Donc, pour ceux qui vont le lire, vous verrez, à la fin de quelques chapitres, vous avez un QR code qui vous envoie vers une plateforme musicale pour écouter le morceau qui correspond à l'ambiance dans laquelle on est. Et c'est fou à quel point les morceaux nous plongent dans l'ambiance. On va le développer, mais avant, j'aimerais qu'on s'octroie une petite pause musicale avec « Let My People Go ».
D'un enfant innocent, une femme abusée, d'un peuple abandonné. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Égarer quelques mers sur un bout de terre, sous le soleil bien doré, montre le corps affamé. Endormis dans leurs bras, des lendemains sans voix, des doigts aussi frêles qu'un chapelet de double peine. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Dans l'isolement du soir, des âmes dérisoires, leurs yeux vagabondes, étrangers même dans leur monde. Chaque arrivée de métro, comme une lame de cristaux fend, nos lèvres séchées, où est la voie destinée? Let my people go. 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 Il y a quelques ombres guettant la nuit sombre pour poser quelques bombes, pour fleurir quelques tours. Ils ont construit des idées pour détruire leur cité, pour bâtir la violence dans le cœur de ses enfants. Let my people go. Let my people go. Let my people go. Let my people go.
h 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est en direct dans Dialectique sur RCN 90.7. Si vous entendez quelques bruits, c'est qu'il y a des travaux dans le bâtiment de notre radio. Alors, on s'excuse d'avance pour nos auditeurs, hein, pour ces quelques bruits qui ne nous empêchent pas d'apprécier la douceur de ce morceau « Let my people go ». C'est un message d'espoir. On sent... pas mal de tristesse dans ce morceau qui ouvre l'album. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
En fait, si vous voulez, c'est un constat. Voilà, je ne voulais pas faire, comme je disais au début, du misérabilisme. C'est un constat. C'est une chanson particulière parce que c'est une chanson que c'était ma première chanson que j'ai écrite quand j'étais jeune, au lycée, que j'avais un groupe. Et voulait voilà montrer que il y a encore même à l'heure où on vit, elle est encore d'actualité. On a toujours ce mouvement, ce phénomène qui sans cesse nous rappelle la fragilité de la vie, le déracinement, le manque, la peur. L'abandon dans une vie urbaine, et puis la violence sociétale dans laquelle on est. Voilà. Donc c'est aussi un cri, un constat, mais aussi un cri doux pour dire, voilà, on a envie de vivre et laisse-nous vivre. Voilà, let my people go, c'est ça.
Il y a go qui peut être interprété dans le sens d'aller,
oui.
Et en même temps dans le sens aussi de vivre, quoi, avancer, que ce soit au sens propre ou figuré.
Oui, parce que je crois dans tout un chacun, si vous le laissez, j'ai développé un petit peu dans mon livre quelques notions sur l'autonomie et la façon dont on peut survivre. C'est parfois, il faut faire confiance aux gens, et quand ils peuvent faire, des gens simples, comme on dit, déracinés ou cabossés par la vie. Et parfois, en eux, il y a une énergie fantastique et qui peuvent, si vous le laissez faire, ils peuvent faire des choses fantastiques.
Alors, dans ce roman, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive sur une île. Hein, alors, je ne sais pas si je prononce bien, Paulo Bidong.
Oui, Paulo Bidong.
Paulo Bidong. Donc, c'est sur les côtes les côtes de Malaisie. Et donc, il fait partie de ce qu'on appelait les boat people. Ces gens arrivés par bateau et qui attendaient, en fait, sur ces îles, d'avoir un message pour repartir sur un ailleurs espéré, fantasmé, en tout cas, retrouver une autre vie, un peu plus de dignité. Mais ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a une forme de société qui se crée sur cette île de réfugiés, avec des histoires d'amour, avec des espérances, avec ce monsieur dont j'oublie le nom, qui est assez antipathique, qui est un peu condescendant, qui a cette philosophie du passé, et qui est accepté chez un couple qui dit, alors dont la femme n'est pas très fan de ce monsieur, mais le mari accepte, et c'est ce couple là qui partage, qui dans la misère est un couple un peu ressource pour les jeunes, qui donne parfois des bols de riz, hein, en grognant un petit peu, qui reçoit et puis qui aime partager. Et ça aussi, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup, le partage dans la misère.
Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, j'ai pris le parti pris de d'écrire cette île. Mmh. Mais cette île symbolise aussi les îlots de virtuels dans lesquels la société moderne se retrouve. C'est-à-dire que vous avez des déracinements des gens qui se retrouvent dans un camp de réfugiés sur une île. Très bien. Mais on peut retrouver des âmes perdues dans l'îlot numérique dans lequel on est. Donc vous avez raison de souligner, en fait, là-dedans, il y a une nouvelle société qui se crée. Hein, vous l'avez mentionné, en fait, c'est quand on arrive à ce genre d'îlot, que ce soit une île réelle ou un îlot virtuel, on appuie sur un bouton reset. Mmh. Donc à partir de là, ah ben vous avez des gens, comme vous décrivez, donc le professeur Fong.
Hein, le professeur Fong, voilà, exactement, merci.
Qui venait, comme d'autres, avec une idée de ce
une
que c'est.
Voilà. Érudition même.
Voilà, érudition, mais à l'ancienne.
Oui.
Et qui ne s'adapte plus. Comme vous voyez, qui ne s'adapte plus et qui devient inapte à cette adaptabilité joyeuse, cette légèreté de l'être que les gens peuvent, à la Kundera, hein, existentialisme, c'est devant l'absurdité, finalement. Les gens qui s'en sortent le mieux, c'est des gens, comme des jeunes donc, que j'ai décrits dans le livre, qui ont une espèce d'adaptabilité joyeuse, et comme actuellement, qu'on peut voir, des gens qui s'en sortent dans ces méandres, je dirais, numériques, de l'îlot numérique, c'est des gens qui s'adaptent avec les nouveaux outils que qu'offre la société, et des gens qui se sentent complètement perdus, comme ce professeur Fong, avec une érudition à l'ancienne, et qui ne s'adaptent complètement plus du tout avec les exigences vitales dans lesquelles on est, se trouve complètement aigri.
Très aigri, voilà, très on le aigri, sent.
Voilà.
Malheureux, il est malheureux, ce monsieur
absolument.
Fong. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, l'exil et le fait de s'adapter? On parle toujours d'adaptabilité, s'adapter à une nouvelle terre et se dire, bon, c'est provisoire, je vais encore devoir m'adapter. C'est quoi pour vous le sentiment d'un réfugié?
Vous savez, le premier sentiment, c'est le déracinement, qui est douloureux, comme toujours. On s'arrache, vous savez, comme un enfant qui est adopté, il cherche toujours, in fine, à retrouver les parents biologiques. Vous voyez, en fait, on peut beau faire, il y a toujours ce sentiment un petit peu idéalisé, peut-être, hein, du lieu de naissance. Toujours un déracinement. C'est pour ça que c'est toujours une histoire douloureuse derrière, un déracinement. Et puis, je crois que la vie maintenant fait qu'on est dans des mouvements permanents. Et ces histoires de déracinement ne cesseront pas. La vie fait que maintenant, on bouge énormément. Au-delà du racinement forcé politique, vous avez d'autres types de mouvements. Demain, vous allez trouver un travail aux États-Unis, on vous paye mieux, on vous reconnaît mieux, ou en Australie, etc. Peu importe, on sera emmené beaucoup plus facilement, avec des moyens techniques, technologiques maintenant, de bouger, de faire sa vie ailleurs. Donc il y a toujours cette dualité entre le déracinement et l'envie. Surtout, je crois, c'est ça qui fait aussi la réussite, c'est l'envie de s'adapter. Voilà. Il y a l'envie aussi de refaire, de plonger sa racine quelque part ailleurs et d'en faire donc une vie significative.
On va revenir sur l'amour omniprésent. Alors, sur cette île, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a dans cette famille qui accueille ces jeunes et notamment qui accueille pour quelques repas Monsieur Fong, il y a de l'amour. Il y a un amour qui peut être fraternel, un amour qui peut être maternel, paternel. Il y a un amour amical. On a deux jeunes hommes qui sont des pêcheurs, qui partagent cette amitié là qui est très forte. On a l'amour aussi, des amours déchus. Il y a un épisode que je ne vais pas raconter en détail hein, pour laisser le suspense aux futurs lecteurs, mais il y a un épisode très très dur, très très déchirant qui se passe sur un bateau. Et dans cet épisode horrible, effroyable, il y a un sentiment d'amour qui naît entre deux personnes. Alors peut-être qu'il est unilatéral, mais en tout cas, on le sent palpable, et puis finalement cet amour est déchu parce que l'une des deux personnes a une surprise qui l'attend au bout du chemin et qui ne permet pas donc l'avènement de cet amour. Donc on a la déception dans les yeux, et quand on lit, c'est fou comme on est triste parce qu'on ressent le malheur de la personne qui a envie d'aimer et qui voit assez vite qu'il s'est fourvoyé. Et enfin l'amour, cet amour absolu qu'on a, c'est entre votre personnage principal et cette jeune fille Mi, et comme ça qu'on prononce
c'est
Mi,
ça,
rencontrée de façon fortuite et puis qui nous embarque dans une histoire incroyable qui deviendra le moteur, en fait finalement le fil conducteur de tout le roman.
Oui, vous avez raison, c'est, comme je disais, et vous l'avez dit aussi, c'est un livre sur l'amour, de façon générale, sur l'amour absolu. Et à travers ce que vous venez de dire, effectivement, je voulais faire progressivement dans ce qu'on appelle de façon globale l'amour, ben, y a la solidarité, il y a l'empathie des gens qui sont ensemble, il y a cette fraternité, parce que je crois au plus profondément de moi, et le livre... Et explique comment ça peut aider, c'est-à-dire que on a oublié parfois, suivant le domaine scientifique médical, on oublie parfois que toutes ces valeurs soignent. Et je le dis aussi, hein, l'amour soigne, l'amitié soigne, la solidarité soigne. Vous voyez, parfois maintenant, quand on évoque le désert médical, etc. On met sur le métier de médecin cette lourdeur, cette responsabilité d'abandonner. Mais en fait, c'est pas eux, c'est pas nous. C'est toute la société qui se désintègre dans une espèce d'urbanisation excessive. C'est pas les médecins qui quittent les paysans, vous voyez, c'est pas du tout ça, c'est l'urbanisation excessive qui crée ces conditions. C'est pour ça qu'on trouve pas de réponse efficace, donc il faut retrouver donc cette solidarité entre les gens, etc. Donc ça, c'est première forme dont vous avez mentionné, et puis ensuite vous avez l'amour déçu dont vous avez évoqué, mais en fait dans toutes les relations humaines, bah, y a des moments délicats, difficiles, des questionnements. Donc, vous êtes deux personnages, c'est comme le personnage avec le film de Clint Eastwood, vous voyez, sur la route de Madison. Il y a cet instantané où les deux âmes se rencontrent, et puis finalement, ils se rendent compte aussi à la fin que, comme je disais, que les cours d'eau, parfois, certains cours d'eau ne s'appellent pas à converger.
Et ça, vous le dites si bien, vous dites aussi que l'amour de l'autre nous plonge dans une introspection, la découverte de soi. Je vous cite, dans son regard s'ouvrait un univers de sagesse silencieuse, un sanctuaire où les mots n'avaient plus leur place, rendu superflu par l'éloquence de son silence. Elle m'initiait à l'art de l'inexprimé, à la beauté d'un échange où les regards parlaient plus fort que les paroles. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que dans le silence de l'amour résonnent parfois des questionnements les plus enfouis en nous.
Oui, tout à fait. En fait, dans cette thèse sur l'amour absolu, je voulais explorer le fait que, en fait, cette quête de l'amour absolu passe par des épreuves, on en a parlé, passe aussi par le refus du destin. C'est une volonté d'être architecte de notre vie, mais aussi, c'est une vraie exploration de soi. L'amour, n'est pas seulement une, pour moi en tout cas, c'est pas seulement une émotion partagée, mais aussi une réflexion sur soi-même. Pour que l'amour perdure, subsiste avec cette volonté d'être autonome, parce que pour moi, l'amour n'est pas l'effacement ou la dépendance de l'un par rapport à l'autre, c'est un travail constant des deux protagonistes pour rester à la fois libre, autonome, indépendant, tout en créant une œuvre commune.
Et l'amour, vous ne le célébrez pas une fois, mais deux fois à travers cet épisode Amour, Amour qu'on écoute.
J'ai vu une femme sur son lit. Trompette d'amour sur un corps si frêle. Suffisait de peu pour que ça se déchaîne. Amour, amour, suffirait de si peu. Amour. Sa fenêtre, fixant là où il y a des fêtes, des rires d'enfants, des pas de femmes. Son cœur est une porte qu'on condamne. Amour,
jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est en direct sur RCN 90.7 avec toujours docteur ou alors plutôt l'artiste, l'écrivain Nguyen Tran. On parle des murmures des frangipaniers, ce livre et cet album, concept inédit, prometteur, hein, mais on y reviendra plus tard. Avant de continuer, juste une petite parenthèse parce que j'ai envie qu'on parle musique un peu, mais... dans ce livre, j'ai senti parfois une critique sociale de certaines conventions sociales établies. Ces personnes qui sont sur cette île, parfois peuvent sentir un sentiment d'être déshumanisées. Et en même temps, elles sont appelées un peu aux quatre coins du monde. C'est un peu comme une libération hein, de quitter l'île. Mais il y a Il y a cette réflexion-là qu'on peut poser sur la table. Il y a aussi, vous l'avez évoqué, une critique à travers tout ce qui est déserts médicaux. En tout cas, il y a une réflexion. Vous apportez une réflexion là-dessus, parce qu'il y a le personnage, à un moment donné, dans son évolution, on lui dit, tu ferais bien de devenir vétérinaire et pour venir dans les terres, travailler avec les cochons, les animaux. Et lui, il dit oui, mais dans sa tête, il se dit, bon, je suis un enfant de la ville, moi, hein. Je suis un citadin, je ne sais pas si je suis fait pour ce monde. Mais en même temps, il se questionne sur ça. Il y a un petit remords, un soupçon de remords. Et enfin, sur les traditions, quand le personnage rencontre son amour, il se demande si c'est un amour possible en dehors de l'île et en dehors des conventions rigides. Pareil pour l'un des personnages qui a une copine norvégienne, il me semble, donc qui a une copine blonde caucasienne et qui est mal vue. Sur l'île, parce qu'il sort avec une fille différente. On se dit, mais pourquoi est-ce que cet amour-là a lieu d'être? Ça aussi, c'est... Est-ce que ces critiques sociales-là, elles étaient vraiment volontaires, ou est-ce qu'elles sont agrémentées au long de l'histoire pour lui donner un peu de consistance, même si on en a déjà beaucoup?
Alors, merci beaucoup de mettre l'éclairage sur cet aspect très important. En fait, si vous voulez, je ne voulais pas faire une critique sociale. Et en fait, dans la thèse que je défends, qui est l'amour absolu, l'amour, en fait, d'après le personnage principal, c'est une confrontation avec la réalité. L'amour, pour lui, n'est pas une fuite de la réalité, mais c'est une danse avec l'absurdité de la réalité. Donc, il faut décrire la réalité. Donc, comme vous avez suggéré, donc, toutes ces réalités, il faut le faire avec. Et puis, trouver des solutions pour sortir de là. C'est ça le sentiment, donc, de l'énergie que peut procurer cette énergie de l'amour absolu. C'est une confrontation avec la réalité dure et de trouver des solutions pour sortir de là. Et pas de fuir cette réalité. Et toute cette réalité, toutes ces difficultés sociales, sociétales, amoureuses, existent et qui nous empêchent parfois. Et donc parfois les gens, si vous voulez, la difficulté, c'est, ou la facilité pour certains, c'est de fuir. Or, le personnage principal, il ne fuit pas. Il confond avec cette réalité pour dire, voilà, ça existe. Et comment son amour fait au fur et à mesure de l'histoire pour sortir et triomphant, disons, de toute cette convention sociale, sociétale. C'est un peu la thèse qui suit un petit peu les influences existentialistes de Kundera.
On pourrait développer sur cette question-là parce que j'avais pas mal d'autres choses à vous demander, mais on va poursuivre sur la musique. D'abord sur l'écriture musicale. Alors c'est vrai que là on a écouté deux morceaux en français, mais la majorité des morceaux de l'album, donc il y en a 8, c'est quand même en anglais. Pourquoi ce choix de l'anglais?
Alors, merci beaucoup. Alors, c'est par lâcheté, je dois avouer, par lâcheté. Le français est une langue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Mais c'est très difficile de mettre en musique. Il faut vraiment beaucoup de plumes derrière, etc. Donc, par facilité...
Vous l'avez, cette plume
Oui.
J'ai lu quelques extraits, là, je pense que les auditeurs peuvent réagir, hein.
Oui.
Nous dire un peu.
Oui, enfin... Il y a quand même, je crois que les auditeurs seraient d'accord avec moi, il y a une différence entre une belle écriture, peut-être, enfin j'ose espérer, d'un livre, et puis une prose poétique, et puis la musicalité des mots choisis pour une chanson. C'est pour ça qui est difficile, et quelques auteurs y arrivent, et c'est très bien, et c'est ça qui est la difficulté pour la langue française. C'est pour ça que par lâcheté, je choisis plutôt l'anglais pour être un petit peu plus rapide dans l'exécution, de cet album qui devait aller très vite avec le livre.
C'est comme si, en fait, vous avez compartimenté vraiment votre écriture poétique pour le livre et la poésie musicale pour l'album, en fait.
Oui, voilà.
Alors, parlons de musique. Vous êtes entouré de musiciens de renom, quand même, dans la région. Je pense à Fred Vincent, qu'on salue, et bien d'autres. Comment s'est composé cet album? Dans quelle énergie? Vous êtes aussi guitariste, hein, je rappelle. Oui. Donc, est-ce que les morceaux, vous êtes parti d'abord des guitares et puis vous avez ensuite agrémenté, ou est-ce que ça a été une composition totale dès le début?
Alors, pour être complètement vrai avec vous, l'album, je l'ai composé tout seul. Mmh. Et on avait très peu de temps, et j'avais pas de groupe. Et donc, j'ai contacté donc, ces merveilleux musiciens que je salue, Dominique Molan, Fred, Jean-Claude, Jean-Michel Weichl, qui sont des très, très bons musiciens. Mmh. Et je leur ai parlé de mon aventure littéraire, mais aussi musicale. Et ça les a touchés. On n'avait que deux mois. Je leur donnais que deux mois. Et puis, même pas six ou sept rendez-vous de trois heures. Et ils ont relevé le défi en écoutant donc, mes morceaux enregistrés à la guitare. Et puis, à partir de là, imaginer, réfléchir ensemble pour arranger, pour mettre en place les choses de façon efficace. Et puis je salue parce que derrière, si vous voulez, ça montre que quand les gens se mettent tous ensemble derrière une belle aventure, ça peut aller très vite. Mmh. Voilà. Donc je trouvais que ça, certains n'y croyaient pas, mais au final, on a fait quand même. Voilà, des très jolis morceaux, j'espère.
Bien sûr. Très bel album que je vous recommande, disponible sur toutes les plateformes. Hein. Donc c'est très simple, c'est Les Murmures des Frangipaniers. Le livre et l'album, c'est le même nom, c'est une œuvre totale. J'ai envie de dire, vous auriez pu vous contenter de cette œuvre littéraire et qui se suffit à elle-même. Et vous avez dit, non, je vais compléter par de la musique. Quel est le plaisir d'ajouter de la musique dans une œuvre comme celle-ci?
Alors, en fait, le désir va avec le thème. Le thème, c'était l'amour absolu, et je défendais l'idée que l'amour absolu, c'est une énergie, je répète, métamorphique, qui permet donc de donner vraiment toute la profondeur, toute une autre réalité. Mmh. La créativité, etc. Et je voulais que cette énergie puisse traverser également ceux qui y touchent de près ou de loin, donc ça comprend par moi, c'est-à-dire que à la fois l'écriture, mais aussi la vision donc de la musique, mais aussi de l'image. On peut greffer là-dessus d'autres thématiques qu'on est en train de travailler sur comment mettre en image, et puis les odeurs, etc. Donc j'ai pas mal d'amis qui sont dans le domaine et qui y adhèrent sur l'idée que à partir d'une œuvre, on peut se mettre ensemble pour imaginer quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple écrivain, pour donner vraiment toute une dimension collaborative, hein, pour dire les choses comme elles sont, pour en créer ensemble quelque chose de beaucoup plus grand que la somme de nous tous.
Et en plus de cette partie instrumentale qui a été infiniment bien pensée, il y a aussi l'écriture. Vous, dans vos références, alors il y a la chanson française, il y a Cabrel, il y a Aline, ce morceau de Christophe que vous adorez, mais il y a aussi de la musique outre-Atlantique, il y a du rock et du blues. Quelles sont les influences majeures pour vous?
Ah oui, écoutez-moi, je peux pas vous donner un nom, parce que sinon c'est une injure pour tous ceux, toutes celles que j'ai pu écouter, mais je suis, on appelle ça éclectique au niveau d'écoute. Bien sûr, j'aime beaucoup les mélodies des années 60, 70, 80, 90, mais vraiment, voilà. J'aime la musique qui sent un petit peu la sueur, voilà. Le blues, vous l'avez, voilà. La poussière, le country, j'adore aussi, bien sûr. Et j'aime la musique qui à la fois qui réveille, mais qui donne aussi un sens aux mots, qui raconte la vie aussi. Le CCR, j'aime beaucoup, vous voyez. Tina Turner, je peux l'écouter des heures entières, si vous voulez. Voyez, voilà. Et puis, parfois, mes amis rient beaucoup quand je leur ai dit que j'aime bien Christophe.
Adamo, la chanson française. Voilà, bon, on va passer à des chansons en anglais. Vous allez nous expliquer pourquoi cette chanson. On va écouter Whispered Sand.
Souls they fly. Will you ever really be on my mind? In every smoky bar, under flickering light, I found not love but my own plight. Where have you gone in the night so long? Maze, I found not you, but the sad blues man's game inside. For this is the heart which some friends might gain. We solve the blues in the world of sin. In the blues, in the fight, in the night, in the strife, I found not love in the course of life. Where have you gone in the night so long? In this endless maze, I found not you, but the sad blues man came inside. To the search, to the dream, to the blues, to the lost, to the unseen. For in the quest for love, what I truly found was a song's a verse, a hollow ground. Where have you gone in the night so long?
Inside. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Toujours en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter non pas Whispering Sand, mais The Blues of My Life. Et on est toujours avec Tran Nguyen. Merci en tout cas de nous partager vos émotions, vos sentiments. C'est vrai qu'on peut se demander si c'est autobiographique, tant au niveau du livre que de la musique. On ressent les émotions que vous voulez partager.
Vous avez raison, on prend un petit peu de soi-même. Mmh. Hein, c'est sûr, j'ai pris quelques éléments de ma vie pour pouvoir donner un petit peu d'authenticité, disons, dans le récit. Mais il s'agit bien d'un roman.
C'est bien un roman. Alors, sur la musique, pour vous, quelle est l'importance de la musique aujourd'hui dans notre société ?
C'est une question difficile. Hein.
On est là pour poser des questions
bien
difficiles.
Bien sûr, bien sûr. J'ai tendance à dire que la musique, elle est essentielle, de façon générale, vous voyez, à une vie. Mais je crois que, actuellement, vous avez énormément d'influences musicales. On est emmené avec le numérique à pouvoir y accéder, écouter, échanger énormément donc, du matériel musical. L'écueil qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une accélération donc de la viabilité d'une musique. Et c'est ça ce dont je crains, c'est on n'a pas de temps, on a tellement et qu'on n'a pas de temps d'approfondir. Mais la musique pour moi, c'est là on voit un peu partout, grâce au numérique, que les gens puissent s'exprimer via la musique, des jeunes, de partout. Et ça, pour moi, c'est formidable.
Et pour faire survivre la musique, justement, est-ce que cela passe par la scène ? Et j'allais vous demander quelle est la suite de ce projet qui se veut total, complet ?
Oui, oui, effectivement, vous avez raison. Donc, on a la présence, pour moi, c'est importante. Hein, c'est ça qui crée le vrai lien. Et c'est vrai avec mes amis musiciens. J'ose pas appeler mon groupe parce que c'est pas
bientôt,
vrai.
Bientôt.
Voilà. Avec mes amis, oui, on pense à la scène, on pense à présenter. Et il faut imaginer une scène un petit peu différente, avec comme je disais tout à l'heure, avec un peu d'éléments cinématographiques, un peu de poésie par les images, mais aussi des odeurs et tout ça. Donc il faut le temps. Pour nous laisser un petit peu de temps pour construire un petit nouveau fragment, je dirais, permettant d'expliquer un petit peu cette démarche, cette aventure littéraire.
Une nouvelle île, pour le coup.
Absolument, dans laquelle il y aura des plages plus, je dirais, accueillantes que des plages d'une île de réfugiés.
On parlera de plage musicale pour le coup.
Absolument.
Et l'expression ne sera pas volée. Merci beaucoup, Tranen Nguyen.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir de vous recevoir, oui.
Recevoir.
Je vous laisse le mot de la fin.
Écoutez, merci beaucoup. Merci. Moi, je tiens vraiment à exprimer tous mes remerciements et gratitude pour cette radio que je connais un peu, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Christophe Chevardet, qui m'a accueilli quasiment six ans, pour parler d'autres choses, etc. Et je reviendrai avec plaisir. Et merci de cet élan et ces soutiens pour les œuvres littéraires et musicales telles que vous faites jusqu'à maintenant. Et je suis bénéficiaire et je vous en remercie vivement.
C'est nous qui vous remercions pour cette belle œuvre. Allez vous la procurer. Les murmures des frangipaniers en album, en livre, et on se quitte avec un générique inédit. Ça sera votre morceau, Whispery Sun. Where the shadows play, we trace out dreams in sounds that way. Whispers of the shore call me to fight the love we share. Float on the evening tide beneath the moonlight. You and I, we confide where the sea meets the starry sky. Our sweet love, and I never die.
by the ear.